dire bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Madame de Sévigné a d'ordinaire le plus beau teint du monde, les yeux petits et brillants, la bouche plate, mais de belles couleurs. Le front avancé, le nez semblable à soie, ni long ni petit, carré par le bout. Et tout cela, qui en détail n'est pas beau, est à tout prendre assez agréable.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il est permis de s'en attrister. Parmi les effets contrastés, positifs et négatifs, de l'émergence du numérique figure une conséquence importante de la prolifération des courriels, la correspondance traditionnelle portée par l'écriture est en passe de s'étioler, et cela à toute vitesse. La Poste vient d'ailleurs d'en prendre acte en supprimant tristement, sans qu'il ne s'élève guère de protestation, les timbres qui garantissaient, selon sa vocation, la promptitude dans la livraison des lettres privées. L'envie surgit, du coup, entre nostalgie et lucidité, de se reporter en arrière vers tel ou tel trésor de lettres échangées qui ont affirmé leur place au centre de l'histoire littéraire et sociale. Les exemples pourraient être nombreux, mais nul ne s'impose avec plus de force que celui de Madame de Sévigné, qui va se trouver, sous cet angle, le sujet de notre émission. Avec Geneviève Haroche-Bouzinac, professeure émérite à l'Université d'Orléans, biographe reconnue de la merveilleuse marquise, nous allons restituer la richesse de cette correspondance devenue, avec le temps, si fameuse. Elle s'est développée entre secret, discrétion et transparence selon une dialectique compliquée qui méritera qu'on s'y attarde. Elle renseigne magnifiquement, avec une sincérité que les écrits immédiatement publics n'auraient pas permise, sur les composantes et les ressorts de la société des lettres à son époque. Elle parle de politique, parmi le tourbillon des passions et des intrigues de la cour et de la ville, en nous dévoilant ce qui, sur le champ, n'était que murmuré. Elle dit aussi beaucoup, avec la franchise que suscite la passion et que permet l'écrit intime, sur la spécificité, la permanence peut-être, de sentiments familiaux compliqués, en inscrivant, semble-t-il, en son centre, l'amour intense et exclusif porté par une mère à sa fille.
Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus brillante, la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste? Une chose que l'on ne peut pas croire à Paris. Comment la pourrait-on croire à Lyon? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Autrive. Une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue au chien. Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre. Devinez qui? Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner, c'est Madame de Lavallière. Point du tout, madame. C'est assurément Mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas, il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, Mademoiselle. Devinez le nom. Il épouse mademoiselle, ma foi, par ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle, mademoiselle fille de feu monsieur, mademoiselle petite fille de Henri IV, mademoiselle de Dombes, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle le seul parti de France qui fit digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison, nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non.
Geneviève Haroche, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannenet.
Nous avions à choisir parmi une foultitude de citations possibles cette lettre très fameuse, le mariage de mademoiselle, du 15 décembre 1670, était lue ici par Gisèle Casadesus. Elle me paraît, je ne sais pas ce que vous en pensez, assez représentative de ce qu'est l'intensité de ce grand talent.
Oui, c'est un exercice de virtuosité littéraire dans lequel Madame de Sévigné adapte la forme de l'énigme à la lettre, afin de tenir en haleine ses cousins Coulanges, qui sont parmi ses correspondants, ses destinataires les plus fréquents, les plus fidèles.
Cette citation exprime assez bien, me semble-t-il, vous allez me dire si vous en convenez, une forme de talent particulier de votre chère marquise.
Oui, elle a beaucoup de talent, elle a le sens de la créativité, du néologisme. Elle sait introduire dans la lettre diverses formes, comme la poésie, le dialogue, les scénettes. Bref, c'est un art de la variation, un art aussi qui accueille le trait d'esprit, le bon mot. Elle est très spirituelle.
Est-ce que vous rejoindriez le propos de Voltaire qui disait d'elle « Elle était née pour rendre aux Français trop majestueux et trop tendus par les efforts des imitateurs des langues classiques la détente, l'élasticité et la volubilité de sens, de mots et de tours. » Elle créa la langue de l'entretien.
Oui, c'est-à-dire que Madame de Sévigné, dès le premier XVIIIe siècle, apparaît comme la représentante du naturel, d'un style naturel.
Quelles sont les relations entre la conversation et cette correspondance? C'est une question qui me paraît assez primordiale.
Eh bien, Madame de Sévigné, afin de louer les lettres qu'elle échange avec sa fille, dit « ce sont de véritables conversations que nos lettres ». La référence, c'est véritablement la conversation ou alors quelquefois la causerie. La causerie qui désigne un entretien plus privé, plus intime. Mais n'oublions pas que le XVIIe siècle, c'est le siècle de la conversation, le siècle des ruelles, le siècle des échanges très brillants. Et donc, la lettre, qui est le discours des absents, cherche à reproduire de manière extrêmement vivante une conversation entre personnes éloignées.
Il faut bien sûr que nous portions aux origines de ce destin, pour commencer, que vous nous rappeliez, Geneviève Haroche, le milieu où s'est formée Madame de Sévigné.
Eh bien, Madame de Sévigné se trouve à la confluence, à la jonction de deux dynasties véritablement différentes. Du côté de son père, elle appartient à une famille de vieille noblesse bourguignonne, Cels Bénigne de Rabutin-Chantal. Son père, le fils de celle qu'on appellera Jeanne de Chantal, enfin qu'on appellera Sainte Chantal, Jeanne de Chantal,
qui a été sanctifiée,
qui a été canonisée au XVIIIe siècle.
Petite fille d'une sainte, c'est pas très fréquent.
Oui, peut-être pas toujours non plus très facile. Et de l'autre côté, elle appartient à une famille de financiers, de ce qu'on appelle des partisans, car ils possédaient des parts de fermes générales. Et son grand-père a fait fortune, Philippe Ier de Coulanges, a fait fortune dans la fourniture aux armées. Et donc, il a acquis un domaine portant fief. Donc, du côté maternel, la peinture des armoiries est à peine sèche, tandis que du côté de la Bourgogne, il s'agit d'une famille très ancienne.
Ce contraste n'est pas sans fécondité pour la formation de cette petite fille qui est très tôt orpheline.
Oui, très tôt, elle perd son père à l'âge de 18 mois, à l'âge où elle n'a pas même la parole, et sa mère à l'âge de 7 ans. Elle sera confiée, grâce à un conseil de famille, à sa famille maternelle, qui l'élèvera au milieu de nombreux oncles et tantes, de cousins, dans un très bel hôtel de la Place Royale, et aussi...
Aujourd'hui, Place des Vosges.
Oui, aujourd'hui, Place des Vosges. Et également dans les campagnes de Suzy-en-Brie. Donc, elle a une enfance très gaie, heureuse. C'est une très jolie enfant. Et donc, elle est très entourée, très appréciée. Donc, il semblerait qu'elle ait des souvenirs de très heureux.
On est au mi-temps du XVIIe siècle, puisqu'elle est née en 1626 quand elle se marie. C'était assez fréquent à l'époque, jeune à 18 ans.
On disait d'elle qu'elle était la perle des demoiselles et un riche parti. Donc elle sera assez convoitée et son oncle et tuteur, Philippe de Coulanges, choisit Henri de Sévigné, seigneur des Rochers, pour ce mariage. C'est un bel homme. Il paraît avoir esprit, dit Olivier d'Ormesson, qui est son oncle par alliance. Et donc, il semblerait que les premières années du mariage soient heureuses. Henri de Sévigné la conduit au château des Rochers, où elle se trouve bien, malgré l'aspect rude, près de Vitré. Et de cette union vont naître en 1646 et en 1648 une fille, Françoise Marguerite, qu'on appelle Françoise, et un garçon, Charles.
Elle est veuve assez tôt, son mari est tué en duel.
Oui, elle est veuve à 25 ans. Et bien que le mariage ait connu quelques accrocs, il semblerait qu'elle en soit extrêmement désespérée. Elle évoquera plus tard l'abîme où j'étais à la mort de Monsieur de Sévigné.
Est-ce que ceux qui ont dit que, ou prétendu qu'elle pouvait être un des modèles de Célimène dans le Misanthrope de Molière peuvent être justifiés? Oui, l'amour que je porte à cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trêve, etc.
Oui, en tout cas, si ce n'est un modèle, du moins un élément de comparaison semblable, certainement. Après son veuvage, on peut songer aussi au poème de La Fontaine, la jeune veuve. Hein, c'est une veuve qui n'est pas mélancolique, qui est très courtisée.
Elle a du bien.
Enfin, Marie de Rabutin-Chantal avait beaucoup de biens, mais par son mariage, elle hérite des dettes de la famille de Sévigné, et des dettes contractées déjà par Charles de Sévigné, son beau-père, qu'elle n'a jamais connu, mais également des dettes d'Henri, ce qui fait qu'elle sera obligée de vendre des terres afin de retrouver un équilibre financier. En cela, elle est aidée par son oncle, l'abbé Christophe de Coulanges, qu'on surnomme le bien bon, qui est quelqu'un qui a le sens des chiffres et aussi le goût des bâtiments.
Et puis, il y a un autre personnage qui est important pour elle, c'est son cousin, Bussy Rabutin, avec qui elle entretient ce qu'elle a appelé des rabutinades.
Oui, des rabutinades et ce qu'on appelle le rabutinage, hein, c'est-à-dire c'est une façon de se disputer, de se réconcilier, d'échanger de bons mots. Donc c'est une façon extrêmement spirituelle de créer des néologismes, on l'a dit. Peut-être pourrait-on dire que ce rabutinage est l'ancêtre du marivaudage.
Ou du flirt au XIXe siècle.
Peut-être.
Oui. C'est Bussy Rabutin, dit d'elle, elle était de ces gens qui ne devraient jamais mourir, comme il en est, qui ne devraient jamais naître dans son histoire amoureuse des Gaules. Et puis, à certains moments, il se brouille. Il est capable de faire d'elle un portrait plus acidulé, comme celui que je vais vous faire entendre. C'est une citation extraite de « Une vie, une œuvre » consacrée à Bussy Rabutin, le 26 juin 1986, une émission de Marie-France Hazard. La lecture est de Bernard Lavalette.
Madame de Sévigné a d'ordinaire le plus beau teint du monde, les yeux petits et brillants, la bouche plate, mais de belles couleurs. Le front avancé, le nez semblable à soie, ni long ni petit, carré par le bout, la mâchoire comme le bout du nez, et tout cela, qui en détail n'est pas beau, est à tout prendre assez agréable. Elle a la taille belle, sans avoir bon air, elle a les cheveux blonds, déliés et épais, elle a bien dansé, et à l'oreille encore juste. Elle a la voix agréable, elle sait un peu chanter. Voilà pour le dehors, à peu près comme elle est faite. Il n'y a point de femme qui ait plus d'esprit qu'elle. Sa manière est divertissante. Il y en a qui disent que, pour une femme de qualité, son caractère est un peu trop badin. Du temps que je la voyais, je trouvais ce jugement-là ridicule, et je sauvais son burlesque sous le nom de gaieté. Aujourd'hui, quand ne la voyant plus, son grand feu ne m'éblouit pas, je demeure d'accord qu'elle veut être trop plaisante. Si on a de l'esprit, et particulièrement de cette sorte d'esprit qui est enjoué, on n'a qu'à la voir, on ne perd rien avec elle. Elle vous entend, elle entre juste dans tout ce que vous dites, elle vous devine et vous mène d'ordinaire bien plus loin que vous ne pensez aller. Quelquefois aussi, on lui fait voir bien du pays. La chaleur de la plaisanterie l'emporte et, en cet état, elle reçoit avec joie tout ce qu'on lui veut dire de libre, pourvu qu'il soit enveloppé. Avec tant de feu, il n'est pas étrange que le discernement soit médiocre. Ces deux choses étant d'ordinaire incompatibles, la nature ne peut faire de miracles en sa faveur. Un sot éveillé l'emportera toujours auprès d'elle sur un honnête homme sérieux. La gaieté des gens la préoccupe. La plus grande marque d'esprit qu'on lui peut donner, c'est d'avoir de l'admiration pour elle. Elle aime l'encens, elle aime d'être aimée, et pour cela elle s'aime afin de recueillir. Elle donne de la louange pour en recevoir. Elle aime généralement tous les hommes, quelque âge, quelque naissance et quelque mérite qu'ils aient, et de quelque profession qu'il soit, tout lui est bon, depuis le manteau royal jusqu'à la soutane, depuis le sceptre jusqu'à l'écritoire.
Quelques épines, Geneviève Haroche, dans ce portrait du cousin Bussy Rabutin. Elle aime tous les hommes et elle décide de n'en épouser aucun.
Oui, alors il ne faut pas sous-estimer dans le portrait composé par Bussy une réaction de colère après le refus d'un prêt qu'il avait demandé à sa cousine. Donc il compose ce portrait charge et ce portrait, elle ne le découvrira qu'en 1666, trois années plus tard. Donc, il est vrai que Bussy souligne la situation de veuve, les avantages du statut de veuve, pour ainsi dire. Et c'est un statut auquel Madame de Sévigné a beaucoup tenu. Hein. L'angoisse d'avoir à affronter d'autres maternités, par exemple. Madame de Lafayette disait « on meurt fort bien de ces choses-là ».
Sa grande amie, Madame de Lafayette.
Oui, sa première amie, celle qu'elle appelait sa première amie.
La princesse de Clèves.
Oui, oui, l'auteur de La princesse de Clèves.
Que Nicolas Sarkozy aimait tellement.
Oui, absolument. Et d'autre part, partager la tutelle de ses enfants mineurs avec un second époux, son manque de foi envers la fidélité des hommes, tout cet ensemble de raisons font que, eh bien, elle tiendra à conserver son statut de veuve. D'ailleurs, à la suite de la bataille de Fleurus, elle dit à son cousin, pour les jeunes veuves, elles ne sont guère à plaindre, elles seront bien heureuses d'être leur maîtresse ou de changer de maître. Donc, il y a vraiment une apologie du veuvage.
Donc, cette liberté très importante pour elle, liberté du comportement, liberté de l'écriture, liberté de la correspondance. Il faut que nous en venions maintenant, Geneviève Haroche, à la spécificité de cette correspondance. La question du secret, la question de la discrétion, la question de la transparence. Avec cet art subtil du partage entre texte public et privé, sur laquelle il faut que nous arrêtions un instant.
Oui, je crois qu'il faudrait rappeler plusieurs choses en ce qui concerne l'art épistolaire de Madame de Sévigné. Tout d'abord, le fait qu'elle bénéficie d'une réforme importante, d'un réaménagement du système postal effectué par Louvois, qui fait que la régularité des échanges, voire la sécurité des échanges, favorise l'épanouissement d'une des formes épistolaires existantes, c'est-à-dire la lettre familière.
Elle dit à un moment donné, effectivement, quelle belle invention que la poste.
Quelle belle invention que la poste et que j'apprécie, messieurs les postillons. Madame de Sévigné ira même jusqu'à se faire des amis auprès des commis, hein, afin qu'ils portent ses lettres plus rapidement.
C'est un investissement, d'ailleurs, ça coûte assez cher,
oui,
y compris le papier.
Tout à fait. Roger Duchesne, qui a travaillé sur le sujet.
Grand spécialiste.
Qui a été le grand éditeur de la correspondance de Madame de Sévigné, évoquait une somme qui avoisinait les 40 ou 50 euros par semaine, hein, pour écrire trois lettres par semaine.
Quant au fond de la correspondance, qu'est-ce qui est secret et qu'est-ce qui est public? Comment est-ce que Madame de Sévigné organise à cet égard cette relation avec le faire savoir? Comment les choses s'organisent-elles?
Alors, il me semble que la lettre est par essence un genre qui met en lumière les frontières, celles du public et du privé. Et il ne faut peut-être pas oublier qu'il existe différentes formes de lettres. D'une part, la lettre qui a une fonction collective, les lettres qui ont un statut intermédiaire qui comportent des passages rédigés à la seule intention du destinataire, tibi soli, et qui voisinent avec